Voix Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous. Très bon début de journée à l'écoute de VOA Afrique. Au micro, Nicolas Pinault et Michel Joseph. Bonjour Michel.
Bonjour Nicolas.
À la une de notre émission ce matin.
À Bangui, le CNT donne une semaine au gouvernement de transition pour rendre l'armée opérationnelle.
Alassane Ouattara officiellement investi pour un nouveau mandat en Côte d'Ivoire.
Le contraste est surtout frappant par rapport à la situation de 2010 où il y avait eu une double investiture du président.
Le mystère plane toujours en Égypte après le crash de l'Airbus le week-end dernier. L'analyse des boîtes noires pourrait prendre des semaines.
Dans la partie magazine de notre émission, nous vous emmènerons au Mali, à Bamako, où se déroulent les rencontres photographiques.
Et on est devenu comme une famille, c'est ce que je dis. Je dis, moi je sais lire et écrire. Elles ne savent pas écrire ni lire, mais j'apprends avec elles chaque jour.
Comme tous les matins, vos rendez-vous habituels, la Minute Écho et le Journal des Sports, la sixième étape du Tour du Faso et la Ligue des Champions, le Real de Madrid qualifié. Mais tout d'abord sur VOA Afrique, le journal.
Tension à Bangui entre les autorités de la transition et le Parlement provisoire. Les membres du Conseil national de transition vont marcher ce mercredi jusqu'à la place des Nations Unies pour réclamer les forces armées centrafricaines opérationnelles d'ici une semaine. Le point avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Il s'agit véritablement d'un ultimatum lancé par le Conseil national de transition au gouvernement à l'issue d'une concertation des parlementaires ce mardi. Une semaine franche pour réarmer les forces armées centrafricaines et les redéployer aux côtés des forces internationales jugées inefficaces et passives devant les violences. Le Parlement provisoire qualifie de trahison l'immobilisme de l'exécutif qui, selon lui, n'a rien fait pour empêcher les violences qui ont embrasé le sud-ouest de la capitale, causant d'énormes dégâts humains et matériels. Aujourd'hui, l'heure n'est plus au discours, mais à l'action, affirme Alexandre Ferdinand Guendé, président du Parlement de la Transition. Dans son adresse à la Nation le lundi 2 novembre, la chef de l'État, Catherine Samba-Panza, a annoncé l'envoi des forces de défense nationale dans les zones en proie aux hostilités. Le Conseil national de transition veut donc s'assurer de l'effectivité de cette annonce et pour mettre plus de pression, les parlementaires ont décidé d'une marche ce mercredi. La marche qui débutera au siège du Parlement aura comme point de chute place des Nations Unies. Frimansi Pilabongi, VOA Afrique.
Investiture hier pour un nouveau mandat de 5 ans du président Alassane Ouattara, le chef de l'État ivoirien a appelé la construction d'une Côte d'Ivoire nouvelle, promettant de renforcer le processus de réconciliation, de mieux redistribuer les richesses et de rédiger une nouvelle constitution. On en reparle dans la deuxième partie de notre émission.
En Ouganda, la campagne pour les élections présidentielles de février prochain est lancée. Hier, Yoweri Museveni est devenu officiellement et pour la quatrième fois le candidat de son parti, le MRN, Mouvement de Résistance Nationale. Pour l'occasion, Museveni s'est offert un immense meeting au Kololo Airstrip à Kampala, où des milliers de personnes l'attendaient.
Au Burkina Faso, Alain-Édouard Traoré, ex-ministre de la Communication et dernier porte-parole du dernier gouvernement déchu, a été arrêté et écroué pour des malversations présumées. Les précisions d'Arzuma Compaoré.
C'est le quatrième ministre du dernier gouvernement de Blaise Compaoré à être écroué. Alain-Édouard Traoré a été interpellé et emmené à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. D'après Armand Ouedraogo, procureur de la Cour de justice, cette arrestation est liée à une affaire de corruption. Les députés du Parlement intérimaire ont voté à la mi-juillet la mise en accusation de 9 ministres, dont M. Traoré, pour détournement de deniers publics et enrichissement illicite. Le Parlement lui reprochait de multiples violations des procédures de passation de marché public qui ont permis de détourner ou dissiper 100 millions de francs CFA à son seul profit.
Toujours à Ouagadougou, en prélude à la réunion des chefs des armées du G5 Sahel, regroupant le Mali, le Niger, le Tchad, la Mauritanie et le Burkina Faso, plus la France, le chef d'état-major des armées françaises, le général Pierre de Villiers, a été reçu en audience par le président de la transition, Michel Cafando. On l'écoute.
Nous avons un objectif en commun depuis 18 mois, qui est la lutte contre le terrorisme, protéger les populations, apporter la paix à ces populations, en particulier par une approche transfrontalière, puisque comme vous le savez, les terroristes sont très mobiles et profitent de ces frontières. Tous les pays de la bande sahélo-saharienne sont concernés et c'est précisément cela qui fait que nous devons travailler ensemble et mieux coopérer encore. Il y a les groupes armés terroristes au nord de cette bande, il y a aussi Boko Haram et les terroristes frappent Vous le savez, ils frappent partout où ils peuvent. Et plus nous serons forts, plus la violence reculera.
Le chef d'état-major des armées françaises, le général Pierre de Villiers.
Une médecin nigérienne qui avait survécu après avoir contracté le virus Ebola a donné naissance à une petite fille en Californie, aux États-Unis. Selon l'hôpital de Lagos, Madame Ingono était sous surveillance médicale depuis le début de sa grossesse et les tests Ebola pratiqués sur sa fille à sa naissance se sont révélés négatifs. Je vous rappelle que l'épidémie d'Ebola, apparue fin décembre 2013, a fait quelque 11 300 morts, dont 99% en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée, selon l'Organisation mondiale de la santé.
Des affrontements entre les forces gouvernementales et celles du principal parti d'opposition au Mozambique, l'Arenamo, ont fait plusieurs morts depuis la semaine dernière dans le centre du pays. C'est ce qu'a affirmé la police mozambicaine hier.
En Angola, 18 jeunes ont été arrêtés ce week-end à Lobito, sur la côte atlantique, lors d'une manifestation de soutien à 15 opposants incarcérés depuis juin à Luanda. Les précisions d'Anastasie Tudiesh.
Parmi les 18 personnes arrêtées figurent Sigilio Suburbano et Avisto Botta, deux rappeurs très connus. Leur avocat David Mendes affirme qu'ils sont accusés de troubles à l'ordre public. Il n'a pas pu les rencontrer et la police a refusé tout commentaire sur le sujet. Ces jeunes avaient manifesté samedi en soutien à 15 activistes détenus à Luanda depuis le mois de juin, dont le rappeur Luati Beirao, qui vient d'interrompre 36 jours de grève de la faim. Tous les prévenus sont accusés de rébellion et de tentative de renversement du président José Eduardo dos Santos, au pouvoir depuis 1979. Ils sont pour la plupart membres du mouvement révolutionnaire de l'Angola, qui réclame depuis 2011 le départ du président dos Santos et plus de justice.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, l'analyse des données des enregistreurs de vol de l'avion russe qui s'est écrasé en Égypte pourrait prendre beaucoup de temps, souligne des responsables. Aucun élément concluant sur la cause du crash de l'Airbus A321 n'ayant émergé jusqu'à présent. L'exploitation des enregistreurs a débuté hier dans les locaux du ministère égyptien de l'aviation civile. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a lui déclaré dans une interview à la BBC que cela prendra du temps de déterminer la cause du crash qui a fait, je vous le rappelle, 224 morts.
L'armée russe a pour la première fois bombardé des cibles en Syrie grâce à des informations données par ce qu'elle présente comme des représentants de l'opposition syrienne. Le général Andrei Kartapolov, chef des opérations militaires russes en Syrie, n'a pas précisé qui étaient ces forces patriotiques. 12 avions russes ont bombardé 24 cibles dans les régions de Palmyre, Deir ez-Zor, Itria et à l'est d'Alep.
Le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov va recevoir ce mercredi à Moscou l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, pour progresser dans l'établissement d'un dialogue réel entre Damas et l'opposition syrienne. On sait que Moscou ne fait pas du maintien de Bachar el-Assad au pouvoir une question de principe. Le ministère russe des Affaires étrangères l'a répété hier, suggérant ainsi une divergence de vue avec l'Iran, l'autre grand soutien du président syrien. Les éclairages de Chérubin Dorcil.
Déjà lundi, le chef des très influents gardiens de la Révolution avait exprimé des doutes apparents sur le soutien inébranlable de la Russie envers Bachar el-Assad, estimant que Téhéran était probablement plus engagé que Moscou envers le leader syrien. Pour le général Mohammad Ali Jafari, il n'y a pas quelqu'un de mieux pour le remplacer. Mais un observateur averti de la région met en garde contre les conclusions hâtives sur ses déclarations publiques. Selon lui, la Russie et l'Iran sont d'accord sur la nécessité de garder M. Assad au pouvoir, tout en soulignant qu'il incombe au peuple syrien de décider de son sort. En revanche, les États-Unis et leurs alliés du Golfe, ainsi que la Turquie, insistent sur le départ de M. Assad comme préalable à un éventuel accord de paix. Vendredi à Vienne, au pourparlers multilatéraux sur la Syrie, il n'a pas été possible de s'entendre sur le sort de Bachar el-Assad.
4 migrants, dont 2 enfants, ont péri noyés hier après être tombés d'un bateau passeur qui se trouvait en difficulté au large de l'île grecque de Lesbos, en mer Égée. La Grèce est devenue la principale porte d'entrée des migrants en Europe. Un peu plus de 218 000 migrants et réfugiés ont traversé la Méditerranée pour rejoindre l'Europe en octobre, selon le HCR.
Et puis le scandale des moteurs truqués de Volkswagen prend de l'ampleur. La filiale nord-américaine de Porsche annonce cette nuit qu'elle va cesser de vendre les 4x4 Cayenne diesel des années 2014 et 2016, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Voilà, c'est la fin de ce journal sur VOA Afrique. Comme tous les matins, place à votre rendez-vous, la Minute Éco, qui vous est présentée aujourd'hui par John Linden.
En République démocratique du Congo, on parle de croissance soutenue, mais cette dernière risque d'être freinée du fait du retard du développement des infrastructures. Selon le magazine Jeune Afrique, alors qu'elle tablait en début d'année sur une croissance du PIB de 10,3% en 2015, les autorités ont dû revoir leurs prévisions à la baisse en raison du ralentissement de l'activité économique au premier semestre. Principale cause de ce ralentissement, la chute des cours mondiaux du cuivre, qui ont atteint leur plus bas niveau depuis 2009, soit environ 5 100 $ la tonne au 31 août, soit une baisse de 26,8% sur un an. Les échanges commerciaux des biens du Sénégal se sont traduits par une atténuation de 21,4 milliards de francs CFA, environ 34,240 millions de dollars, du déficit commercial durant le mois d'août 2015. L'information publiée par nos confrères d'APA News est de la Direction de la prévision et des études économiques en abrégé DPEE. Ici aux États-Unis, Twitter a annoncé mardi qu'il abandonnait l'étoile qui permettait jusqu'ici à ses utilisateurs de marquer leur contenu favori sur son réseau et la remplaçait par un cœur pour signaler les messages qu'ils aiment. Le réseau social américain fait valoir que ce nouveau système, qui rappelle celui utilisé par le rival Facebook avec son fameux bouton « J'aime », symbolisé par un pouce en l'air, permet aux utilisateurs d'exprimer plus simplement leur opinion.
Merci John pour cette Minute Écho. On passe au sport dans notre émission. Et pour en parler, nous accueillons Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Nicolas.
On parle cyclisme, la 6e étape du Tour du Faso ce matin.
Oui, la 6e étape du 28e Tour du Faso, c'est ce matin entre Pas et Bobo-Dioulasso dans l'ouest du pays, une distance de 134 km. Et soulignons que hier, l'Érythréen Michael Hapton a remporté la 5e étape de ce tour entre Kourougou et Boromo, longue de 115 km. Mais la course, il faut le dire, a connu une chute à 1 km de l'arrivée et a contraint donc le capitaine de l'équipe malienne, Tidiane Sanogo, à finir la course sur le vélo d'un villageois.
Parlons à présent de football en Europe, la 4e journée de la Ligue des Champions qui a débuté hier soir.
Oui, dans le groupe A, Shakhtar Donetsk écrase Malmö 4-0. Le Real Madrid est venu à bout du Paris Saint-Germain 1-0. Dans ce groupe A, donc, le Real est en tête avec 10 points, suivi du Paris Saint-Germain 7 points. Dans le groupe B, PSV Eindhoven a dominé Wolfsburg 2-0. Et Manchester United a eu raison du CSKA Moscou 1-0. Dans ce groupe, Manchester United est en tête avec 7 points, suivi du PSV Eindhoven, 6 points. Dans le groupe C, à Lisbonne, Benfica a battu Galatasaray 2-1. Et match nul 0-0 entre FC Astana et l'Atlético Madrid. Dans ce groupe C, donc, Benfica est en tête avec 9 points, suivi de l'Atlético Madrid, 7 points. Dans le groupe D, FC Séville a été laminé par Manchester City, 3-1. Match nul, 1-1 entre Mönchengladbach et Juventus de Turin. Dans ce groupe, c'est Manchester City qui est en tête avec 9 points, suivi de la Juve, 8 points. Il faut dire que les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés en 8e de finale. Le troisième disputera l'Europa League. Les équipes sont départagées via les rencontres directes, puis via la différence de but général.
Un mot de tennis pour vous dire qu'au Masters de Paris-Bercy, Novak Djokovic s'est qualifié sans frémir pour les 8e de finale du tournoi. Le numéro 1 mondial a dominé le Brésilien Thomas Bellucci en 7-5, 6-3. Le double tenant du titre affrontera au prochain tour le Français Gilles Simon, deux outsiders, le Suisse Stan Wawrinka et l'Espagnol David Ferrer se sont également qualifiés pour ces 8e de finale.
Et pour terminer, Nicolas, quelques résultats de la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Eh bien, Charlotte a largement dominé Chicago, 130-105. Lamb, auteur de 20 points. Indiana s'impose à Détroit, 92-84. En Floride, Atlanta bat Miami sur son parquet, 98-92. Belle performance également d'Orlando qui s'impose à l'extérieur, 103-94 face à la Nouvelle-Orléans. C'était la page des sports présentée par Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, le monde aujourd'hui. La deuxième partie de notre émission, début du nouveau quinquennat d'Alassane Ouattara depuis hier et la cérémonie d'investiture. Monsieur Ouattara s'est engagé à construire une Côte d'Ivoire nouvelle, à renforcer la réconciliation et à mieux redistribuer les richesses du pays et de surtout doter le pays d'une nouvelle constitution. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint le président d'Agir pour la démocratie, la justice et la liberté en Côte d'Ivoire. On écoute Fernand Julien Gauze.
Le contraste est surtout frappant par rapport à la situation de 2010 où il y avait eu une double investiture du président et le président Alassane lui-même avait tenté une double investiture, une première par la voie du fier, une seconde dans les formes prescrites par la Constitution solennellement et devant donc le Conseil constitutionnel. Donc aujourd'hui, on est à plusieurs années-lumière de cette situation catastrophique qui a fragilisé l'institution ivoirienne et donné de la Côte d'Ivoire une image malheureuse. Donc, je pense que le fait que tout se soit déroulé en accéléré procède aussi du souci de tourner cette page et de passer à l'essentiel. Même si c'est vrai que l'investiture constitue, au terme de la Constitution, une étape importante, un symbole très fort.
Oui, il a promis une Côte d'Ivoire nouvelle. Qu'est-ce que vous attendez justement de son concept?
Ce que nous souhaitons voir dans ce chantier, c'est, comme je dis, un ensemble de valeurs qu'il faut ancrer dans la conscience des Ivoiriens, c'est-à-dire la stabilité politique, la paix sociale, la cohésion plus ou moins peaufinée entre les différentes tribus et les ethnies, et donc une vue publique qui était sans accroc et sans grand heurts. L'Ivoirien nouveau pour nous, c'est l'Ivoirien qui aspire véritablement à la paix et qui prend sa place en tant que terre de rencontre, terre de partage, terre de fraternité, terre de dialogue aussi.
Le président Ouattara veut changer la constitution. Est-ce que vous pensez que ça va être facile?
Alors, cela dépend de ce qu'on va changer dans cette constitution. On nous a dit qu'il y a quelques articles conflictuels dont il faut se débarrasser. Donc, il faudrait que la nouvelle constitution, si elle veut évacuer tout ce qui est en conflit, ne soit pas elle-même votée dans la douleur et dans le conflit, dans le ressentiment ou dans la frustration. Il faut donc engager toutes les parties, toutes les composantes, pas seulement les composantes politiques, mais toutes les composantes de la nation, les forces vives, y compris bien sûr la société civile, et faire émerger le plus important, le plus essentiel, pour que demain la Constitution ne soit pas encore une source de conflit et de fratricide.
Fernand Julien Gauze, il était joint à Abidjan.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur la guerre en Syrie après la décision des États-Unis de déployer un petit nombre de leurs forces spéciales sur le sol syrien pour encadrer les combattants kurdes dans leur lutte contre le groupe État islamique. S'agit-il d'une inflexion dans la stratégie américaine? Les États-Unis doivent-ils en fait s'impliquer davantage militairement? Quid du rôle de la Russie? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Santé. L'Organisation mondiale de la santé recommande désormais que les personnes diagnostiquées positives au VIH commencent leur traitement aussitôt après le dépistage. L'OMS estime qu'il ne faut pas attendre la diminution des cellules blanches connues sous le nom de CD4. Mais cela est-il possible pour les malades dans les pays africains? Eddy Sango a joint à Kinshasa un responsable de l'Union congolaise des organisations de personnes vivant avec le VIH, Jean-Claude Mukendi.
Le ciel de l'école béninoise s'est assombri de gros nuages qui en ont statut du corps enseignant, revalorisation de la fonction enseignante, revalorisation salariale et dans...
Voilà, ça c'est le reportage sur le Bénin qu'on va jouer après. Je vous le disais donc, on parle de santé. L'OMS qui recommence désormais que les personnes diagnostiquées positives avec le VIH commencent leur traitement aussitôt après le dépistage. On va écouter à Kinshasa un responsable de l'Union congolaise des organisations des personnes vivant avec le VIH, Jean-Claude Mukendi.
On doit appliquer de façon aveugle cette recommandation-là. Nous risquons d'être butés à des ruptures de molécules parce qu'on risque d'avoir un grand nombre de personnes qui seront sur la file d'attente qu'on doit mettre sous ARV et on risque de ne pas avoir les moyens nécessaires. Quand on recommande quelque chose, il faut donc aussi faire suivre les moyens.
Là, vous parlez du pays en général, de la politique nationale. Mais est-ce que vous pensez qu'individuellement, les Africains ou même les Congolais pourraient être à même de débourser de l'argent pour s'acheter ces ARV dès qu'ils ont été dépistés?
En tant qu'une personne physique, c'est un peu difficile vu si on prend les statistiques de la Banque mondiale qu'un Congolais vit avec moins de, je sais pas, $1 ou $1, moins de $10 par jour. Voilà un peu parce que la prise en charge, c'est presque le patient qui se prend en charge avec, en dehors des ARV, mais il n'y a pas que l'ARV à prendre, il y a la nourriture, l'alimentation, il y a toute une gamme d'éléments qui accompagnent la prise des ARV. Ce qui fait que ce sera un peu difficile de demander à un Congolais physique de se prendre en charge comme ça. Ce sera un peu difficile. Parfois, il y a des ruptures de stock qu'on peut éviter facilement. Juste en communiquant l'information à Gérard.
Il y a quelques temps, il était dit qu'il fallait attendre un certain moment pour commencer les traitements et que c'était bon de commencer ces traitements ni très tôt ni très tard. Et que maintenant, comme l'OMS dit qu'il faut commencer précocement, qu'est-ce que
oui,
vous en dites?
C'est toujours l'OMS qui avait dit qu'on devait attendre jusqu'à 350, le taux de CD4 pour mettre quelqu'un sous ARV. Si c'est un peu plus supérieur à 350, il fallait patienter. Bon, maintenant, elle a dit que vous êtes dépisté, quel que soit le taux de CD4, on vous met sous ARV. Oui, c'est bien. Mais seulement, est-ce que c'est tout le monde qui saura suivre ce régime-là? C'est en plus que ceux qui sont dans le besoin, on n'a pas encore réalisé la couverture de 100%. Est-ce que ceux-là qui vont s'ajouter, est-ce qu'on saura couvrir ça? C'est-à-dire, il faudra un peu plus personnaliser peut-être la recommandation par rapport à chaque cas ou à chaque pays, voir comment on pourra intérioriser ou bien appliquer cette recommandation pour qu'il n'y ait pas de regrets.
Jean-Claude Mukendi, il était joint à Kinshasa. Direction, on l'entendait précédemment, le Bénin. À peine démarré, l'année scolaire a du mal à prendre forme dans le secteur public. Les centrales syndicales ont lancé un mouvement de grève de 72 heures chaque semaine, scrupuleusement respecté par les enseignants. Reportage de la correspondante de VOA Afrique à Cotonou, Ginette Fleur Adande.
Le ciel de l'école béninoise s'est assombri de gros nuages qui en ont statut du corps enseignant, révalorisation de la fonction enseignante, révalorisation salariale. Et dans cette bataille gouvernement-syndicat, ce sont les apprenants qui en payent le prix élevé.
On n'a pas fait cours parce qu'on aurait appris que la grève continue toujours. Le professeur n'est pas encore là. Ce n'est pas une situation normale.
Les classes sont vides, les élèves sont là, mais les profs ne sont pas là. Donc on attend pour voir. Ce n'est pas bien de commencer la rentrée scolaire avec une grève. On demande sincèrement au gouvernement de faire quelque chose, puisqu'on est là, on prépare notre avenir. Et ce n'est pas bien que les professeurs ou bien les syndicats mettent en jeu notre avenir.
Malgré les séances de négociation, les centrales syndicales restent imperturbables et refusent de se fier à ce gouvernement, espèrent quand il s'agit de faire des promesses, absents quand il faut les tenir.
Le constat que nous avons fait, c'est que le gouvernement entretient un certain flou.
Avant que la grève ne cesse définitivement, il y a deux préalables. La signature du décret portant statut des enseignants de la maternelle, du primaire, du secondaire. Deuxième chose, le relevé des conclusions que nous avons eues.
On s'est mis d'accord sur le paiement des 1,25 aux enseignants de la maternelle, du primaire, du secondaire, technique et professionnel. Premier point qui constitue une victoire pour les enseignants. On s'est mis d'accord sur la signature des statuts particuliers des enseignants de la maternelle et du primaire, puis de celui du secondaire technique et professionnel. Le troisième point, nous avons dit qu'il s'agit d'engager les négociations avec les responsables des enseignants pour l'application progressive du contenu des statuts particuliers.
Le gouvernement demande du temps pour se mettre à jour et satisfaire les revendications, mais les centrales syndicales disent avoir épuisé le crédit patience emmagasiné.
Nous avons déjà fait preuve de notre patience. Nous espérons que le gouvernement va accélérer la procédure afin que, à la fin, d'ici à là, que nous puissions, d'ici à une semaine, connaître nos statuts particuliers. Sinon, nous ne serons plus responsables de rien et nous ne jurerons plus de rien.
Pour le moment, pendant que les apprenants du privé vont rigoureusement à l'école, ceux du public flagonnent en attendant que syndicats et gouvernements ne fument le calumet de la paix. De Cotonou, Ginette Fleur Adondé pour VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Golf FM, Cotonou. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Retour aux États-Unis, à l'approche du Girls Summit en Zambie, fin novembre, la Coalition internationale sur la santé des femmes organise ce jeudi à Washington une rencontre pour inciter le gouvernement américain à adopter une stratégie pour lutter contre le mariage forcé. Un chiffre, dans les pays en voie de développement, une fille sur neuf est mariée de force avant l'âge de 15 ans. Nathalie Barge a joint Françoise Girard, elle est la présidente d'International Women's Health Coalition.
Ce qu'on veut, ce ne sont plus des déclarations ou des initiatives, mais on veut passer de la rhétorique à l'action, donc avoir des budgets pour appuyer l'éducation secondaire des filles, leur éducation sexuelle, la lutte contre les violences, contre les mutilations génitales, qui sont souvent un précurseur au mariage forcé, et en général, mettre les adolescentes au centre des interventions et de voir tout ce qui est nécessaire.
Au niveau des lois de certains gouvernements, notamment de l'âge légal du mariage, est-ce que vous avez une marge de manœuvre qui vous permet de les influencer?
C'est assez compliqué parce que dans certains pays, la loi n'a pas toujours un impact sur le terrain. Par exemple, au Cameroun, le Code civil permet le mariage des filles à l'âge de 15 ans avec le consentement des parents. Intéressant d'ailleurs, c'est pas le consentement de la fille, mais avec le consentement des parents. Ceci dit, il y a énormément de mariages alors que les filles n'ont que 12 ou 13 ans. Et souvent, ce sont les pratiques coutumières qui ont précédence.
À ce propos, un mot sur les États-Unis.
Eh bien, aux États-Unis, l'âge du mariage est déterminé par les États, donc ça varie d'un État à l'autre. Et il y a encore un bon nombre d'États américains qui permettent les mariages des filles et des garçons à l'âge de 16 ans. Alors, les États-Unis eux-mêmes ont quand même du ménage à faire dans leur législation.
On parle beaucoup de ce que peut apporter la jeune fille, la jeune femme en retour si on la respecte, mais la souffrance dans tout ça, est-ce que c'est pas un apport non plus d'éviter de la faire souffrir?
Oui, évidemment, et parce qu'elle souffre des sévices physiques, mais aussi des dommages psychologiques. On voit là vraiment la prise de conscience. Les mères nous disent, oui, je regrette vraiment. Et maintenant que j'ai pris conscience, je saurais quoi dire pour sa petite sœur. J'ai un autre discours en tête. Alors autrefois, je n'avais même pas conscience que je pouvais dire autre chose.
Françoise Girard, jointe à New York. Partons pour Bamako, enfin, où se déroule la 10e édition des rencontres biennales de la photo. Le travail des femmes maliennes y est à l'honneur, avec notamment le tissage d'Awa Meïta ou avec les photos de Malik Sidibé, prises après l'indépendance du Mali. Reportage sur place de Kassim Traoré.
Les activités de la 10e édition des rencontres La Photo de Bamako se poursuivent normalement. Ndiaye Ramatoulaye Diallo, ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, nous parle du thème de cette édition.
La thématique retenue pour cette édition, Telling Time, Compter le temps, vise à utiliser la photographie comme un médium d'exploration de la notion de temporalité à travers la narration du passé, du présent et du futur.
La styliste et créatrice malienne a fait d'une pierre trois coups. Un hommage au vieux photographe de 80 ans, Malik Sidibé, étalait le savoir-faire des Maliennes en matière de tissage de plastique recyclé. Le tout harmonisé avec un travail de design. Awa Meïté, styliste.
La base de la production, c'est le coton et le plastique. Parce que les femmes ont un souci. La crise environnementale touche de plein fouet les femmes. Et de ce fait-là, on les sensibilise à la question du recyclage plastique. Et on est resté dans le noir et blanc pour cette collection-là. Un hommage à Malik. On parle de Malik partout jusqu'à aujourd'hui parce qu'il a su montrer une jeunesse africaine digne qui en veut, qui veut s'émanciper.
Awa Meïté a une équipe de femmes très forte en tissage. Elles ont fait du recyclage des plastiques une autre manière de contribuer à la protection de l'environnement.
Ces femmes-là avec lesquelles je travaille, bon à mal an, elles savent qu'elles ont un salaire. Elles n'ont jamais tissé auparavant, mais là elles ont appris. Elles arrivent à créer des choses. Et on est devenu comme une famille, c'est ce que je dis. Je dis, moi je sais lire et écrire. Elles ne savent pas écrire ni lire, mais j'apprends avec elles chaque jour. Et le tissage qu'elles font, je ne peux pas le faire. Donc c'est une forme d'admiration que j'ai pour elles et tissant ces formes de solidarité.
Plusieurs créateurs et créatrices ont pris part au vernissage de l'exposition d'Awa Meïté, comme Soukaina Mokhtar Diop du Sénégal.
Vous avez vu les sacs vous-même, vous avez vu l'originalité, les formes qu'on ne retrouve pas habituellement dans le marché. Et je pense que la symétrie qu'elle a fait avec le travail de Malik Sidibé, elle l'a fait ça depuis déjà l'année dernière dans son festival d'Aoulaba. La transposition aujourd'hui entre ces modèles, ces propositions de design aujourd'hui avec l'atmosphère d'il y a, je sais pas, 40 ans comme ça, de Malik Sidibé, c'est tellement proche. Les photos de Malik sont intemporelles, le pain tissé est intemporel.
Cette exposition qui se tient en marge des rencontres photographiques de Bamako est soutenue par l'UNESCO et l'ambassade des Pays-Bas au Mali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Ainsi va le Monde aujourd'hui, la mise en onde assurée par Michel Joseph, Nicolas Pinault à la présentation. On va vous souhaiter une excellente journée à tous. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com.